7h24 minutes. On reviendra tantôt sur la situation dans les CHSLD, mais il faut, je pense, revenir aussi sur le côté un peu plus caché de cette pandémie, c'est-à-dire des gens qui sont malades ou des gens qui meurent, mais pas du virus, des gens qui sont les victimes des décisions prises, qui sont évidemment, on les comprend dans les circonstances, de dire il faut déployer des ressources dans les CHSLD, mais est-ce qu'on fait ça au détriment de patients qui sont en attente d'opérations ou de traitements? Puis il y a comme deux phénomènes. Il y a le report d'une chirurgie et la peur de patients aussi de se manifester après des symptômes, d'aller consulter, d'aller à l'urgence, de retarder parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital tout simplement à cause du virus. J'en parle avec deux présidents d'associations ce matin, deux médecins. D'abord, Dr Arsène Basmadjian, qui est le président de l'Association des cardiologues du Québec. Dr Basmadjian, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Et Dr Martin Champagne, qui est le président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Dr Champagne, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Je commence avec vous, Dr Basmadjian. Vous avez écrit une lettre, il y a un rapport, semble-t-il, qui indique que déjà au Québec, il y a des gens en attente d'une chirurgie qui sont décédés, c'est vrai?
Il y a des gens qui attendaient des procédures ou qui ont attendu trop longtemps aussi pour consulter. On a des exemples des deux qui sont soit décédés ou qui ont eu certainement des complications, des séquelles.
OK. Donnez-moi des exemples très concrets, très clairs de ça.
Bien, on a beaucoup d'exemples de patients qui sont attendus à la maison. Mais même vous avez peut-être vu certains exemples déjà publiés. Mais moi, hier, là, j'ai eu un collègue, j'étais en stationnement, puis je parlais avec un de mes collègues. Évidemment, on respectait nos distances. Et puis, il me rapportait qu'il parlait avec un patient, qu'il l'appelait régulièrement parce qu'il savait que c'était un patient qui était à haut risque, si on veut. Puis c'est un monsieur âgé qui est à domicile. Puis il lui parlait, puis le monsieur, il était de toute évidence très essoufflé. Puis le cardiologue, mon collègue, lui demandait, écoutez, monsieur, il faut que vous veniez à l'urgence. Puis le patient a refusé. À maintes reprises, mon collègue lui a demandé, venez à l'urgence, monsieur. Évidemment, je n'ai pas de suivi encore parce que c'était juste hier. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne se présentent pas. Et dans l'autre cas, on a des cas qui ont peut-être, on ne sait pas quelle aurait été l'issue, mais s'ils n'avaient pas été sur des listes d'attente prolongées, ben, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de complications.
OK, ça veut dire des gens à qui on a dit ben, l'opération, la chirurgie est reportée et qui, entre-temps, ont vu leur état se détériorer, c'est ça?
Voilà, oui.
Avez-vous un exemple de figure de ça que...
Ben, on a des patients avec des maladies valvulaires sévères, des sténoses aortiques qui attendent... évidemment, je peux pas nommer, on a la région, c'est des cardiologues qui nous les rapportent, mais oui, on a des patients, des septagénaires, exemple d'un septagénaire aussi, qui attendent pour une intervention qui a dû être reportée, puis soit reportée parce que sur la liste d'attente, ou encore reportée parce qu'il fallait attendre les résultats de la COVID même, puis ils pouvaient avoir des complications en attendant. Donc, oui, on a des exemples.
OK. Alors. Dr Champagne, je rappelle, président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. La ministre McCann répète en point de presse que tous les cas de cancer, les cas urgents, les gens pour qui c'est donc important d'être opéré vont être opérés ou ont été opérés. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça?
C'est faux. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est grave? Présentement, si vous avez un cancer du côlon qui se présente avec une perforation intestinale, c'est un cas d'urgence, vous allez être opéré immédiatement. Mais si vous avez un cancer du côlon qui ne présente pas de symptômes, vous allez être sur une liste d'attente. Peut-être que vous êtes sur la liste d'attente déjà, peut-être que vous n'avez même pas eu votre diagnostic, parce que présentement, l'accès à l'endoscopie est très limité. Il y a au Québec, chaque année, 56 000 nouveaux cas de cancer. Ça veut dire que chaque jour, en moyenne, on a 156 personnes qui doivent avoir des biopsies par endoscopie, par chirurgie. Et donc, ça fait 6 semaines qu'on est à l'arrêt complet des activités ou presque complet des activités, des procédures diagnostiques. Ce qui fait que présentement, on peut estimer qu'il y a 6500 patients qui n'ont pas eu leur biopsie, qui n'ont pas leur diagnostic de cancer de portée. Si on attend encore 2 semaines, comme il nous est proposé, on va être rendu à 8700 patients. Présentement, le gouvernement veut se rassurer et fait une vigie, demande aux établissements d'établir les patients qui sont sur des listes d'attente de chirurgie. Mais pour être sur une liste d'attente de chirurgie, il faut que vous ayez eu un diagnostic, il faut que vous ayez eu un bilan. de nombreux patients ne seront pas répertoriés dans cette liste-là. Alors, présentement, il y a une urgence, le système est en train de s'engorger. Et les hôpitaux de soins aigus ont la capacité maintenant, dès maintenant, de prendre charge de ces patients-là. Et c'est important que l'on redébute les activités diagnostiques, donc tous les tests d'imagerie, toutes les biopsies, toutes les scopies de tout genre pour qu'on puisse offrir à ces patients-là des chances de guérison équitables dans les circonstances.
OK. Je pose la question à tous les deux, là, mais je vais commencer avec le docteur Basmadjian. On parle tout le temps de la liste d'attente, puis on parle du délai médicalement acceptable. Il y a donc toujours des gens là, qui attendent pour avoir une chirurgie. Qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant par rapport à la situation avant le virus?
Mais pour les interventions chirurgicales, il y a une réduction d'activité de 50 %. Donc, s'il y avait 900 patients sur une liste d'attente, bien, il y en a 450 qui n'ont pas été opérés. Fait que pendant ce temps-là, les listes se prolongent. Donc, juste pour vous donner un exemple, pour les imageries, il y a 300 000 échographies cardiaques par année au Québec. Bien, si on divise par 12 mois, puis ensuite on divise au tiers les activités présentement pour ce qui est de l'imagerie, bien, il y a à peu près 8 000 échographies cardiaques qui ne se font pas par mois. Donc, ça s'ajoute aux listes d'attente. Et là, on ne compte pas, évidemment, pendant les 6 dernières semaines, les personnes qui n'ont pas pu consulter. Fait que ça, c'est les gens qui passent en dessous du radar. Donc, les chiffres sont très élevés.
OK. Docteur Champagne, je vous pose à vous la même question par rapport à l'attente habituelle. Là, qu'est-ce qu'il y a de différent?
La Direction québécoise du cancer nous demande de procéder aux chirurgies en dedans de 2 semaines de la mise sur la liste d'attente. Présentement, tout est arrêté depuis début mars. Il y avait déjà des patients sur les listes d'attente. Donc, avec une reprise, même très lente des activités, on peut s'attendre à ce que les délais excèdent vraiment de plusieurs mois les temps idéaux pour la chirurgie. Et il y a des patients qui verront leur cancer progresser durant ce temps-là. Tout ce que les patients entendent présentement, là, les patients qui sont en attente, qui ont un diagnostic de cancer, là, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça, c'est l'horloge du temps qui est dans leur tête, là, qui dit que le cancer va peut-être progresser durant l'attente.
Bon, il y a l'autre problématique qui est soulevée, c'est-à-dire l'accès à certains médicaments là, pour la sédation propofol. Est-ce que ça aussi... Docteur Champagne, c'est un enjeu, c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être opérer, mais on n'a pas les médicaments nécessaires en quantité suffisante pour le faire.
Le mot que je dirais pour le gouvernement à cet effet-là, c'est transparence. Présentement, la ministre dit oui, on va faire de l'imagerie, oui, on va faire des tests diagnostiques, oui, on va faire des chirurgies. On reçoit durant ce temps-là des mémos de certains hôpitaux qui nous disent on est à court de médicaments de sédation, on est à court de curare, on ne peut pas endormir les patients pour les chirurgies. Alors, puis il y a des hôpitaux qui envoient encore des notes comme quoi ils sont à court d'équipements de protection individuelle là, pour le personnel dans les CH. Alors, ce qu'on dit, là, c'est qu'il faudrait que le ministère nous donne un portrait juste de ce qu'il en est. Si c'est vrai qu'on n'est pas en pénurie de médicaments pour les chirurgies, bien qu'on ouvre des salles d'opération, qu'on permette donc de désengorger nos listes d'attente, qu'on permette l'accès aux soins pour les patients qui en ont besoin. Si c'est pas le cas, ben là, on a besoin de le savoir parce que pour nous, comme oncologues, on a des choix à faire. On peut orienter des patients de différentes façons, mais il faut qu'on soit au courant de la situation s'il n'y a pas de chirurgie possible.
OK, mais c'est important ce que vous dites là parce que on nous dit qu'il y a une marge de manœuvre pour 3-4 jours qu'on travaille sur des médicaments alternatifs. Ce que vous nous dites, dans le fond, c'est que sur le terrain, là, vous n'avez pas une idée claire des stocks, une idée claire de ce qu'il y a comme médicaments disponibles.
C'est tout à fait juste. Il y a des données contradictoires. La réalité n'est pas nécessairement la même d'une région ou d'un établissement à l'autre. Mais présentement, entre le discours qu'on entend à la télé à 13h15 de la ministre McCann, comme quoi il n'y a pas de problème, c'est pas ce qu'on vit sur le terrain.
OK. L'autre question qui était...
Je pourrais ajouter quelque chose.
Oui, allez-y, docteur.
En cardiologie différente de la chirurgie cardiaque, où est-ce que le patient est évidemment endormi complètement, là, sous anesthésie générale, en cardiologie, la grande majorité des procédures se font même sans sédation ou avec une sédation légère. Donc, le manque d'agents anesthésiques n'est pas un problème pour ce qui est de la majorité des interventions en cardiologie, comme pour débloquer des artères ou pour mettre des pacemakers. Donc, pour ce qui est du manque d'agents, ce n'est pas un problème majeur en cardiologie. En tout cas, c'est pas un problème qui nous empêcherait de pouvoir faire des procédures et certainement pas des procédures diagnostiques.
OK. en résumé, là, pour que ce soit bien clair pour les gens, là, on comprend que deux types de problèmes. Il y a d'abord les gens qui ont peur, là, qui ne veulent pas aller à l'hôpital ou qui n'ont pas voulu aller à l'hôpital, qui ont passé outre des symptômes, qui auraient pu être vus, qui auraient pu être traités plus rapidement. Donc, cette espèce de crainte là, d'être en contact avec le virus. Et le fait qu'on décide de passer en mode quasi-neutre là, pour ce qui est des chirurgies. Donc, il y a des patients qui ne sont pas soignés, qui ne sont pas opérés, puis la liste d'attente s'allonge. Concrètement, là, vous dites quoi au gouvernement qui dit « Écoute, moi, d'un côté, là, il faut que je mobilise les médecins, les infirmières. J'ai des CHSLD à l'abandon. Le feu est pris là-dedans. Je veux bien, là, mais c'est quoi la recommandation? »
Écoutez, il faut premièrement, moi c'est juste peut-être une petite phrase, là, mais c'est les bonnes ressources au bon moment, au bon endroit. Je veux dire, est-ce que ça prend vraiment tant de médecins pour aller dans les autres centres qui ont absolument besoin d'aide? Ça c'est clair, on ne peut pas le nier, c'est ce que on pourrait dire tragique ce qui est en train de se passer au niveau des CHSLD. Donc, il y a un besoin d'aide. Il y a un besoin criant d'aide. Mais la seule chose, c'est qu'il faut bien choisir les ressources et utiliser les ressources à utiliser l'expérience des gens à la bonne place. Donc, pour ce qui est des CHSLD, oui, ils ont besoin de ressources, mais est-ce qu'on pourrait les choisir de façon un peu plus intelligente et les distribuer adéquatement, avoir un vrai plan d'attaque plutôt que de simplement recevoir des appels des chefs de service pour dire, ben j'ai besoin de tant de médecins, j'ai besoin de tant d'infirmières, j'ai besoin de tant de ci, envoyez-les là, puis sans vraiment un plan d'attaque. Ça prend un bon plan, et de l'autre côté, dans les hôpitaux ont très bien fonctionné. C'était vraiment un succès au niveau des hôpitaux pour ce qui est de la COVID, et je pense que maintenant, c'est le temps de bien orienter nos ressources et de bien les utiliser. C'est pas en gelant d'un côté puis en mettant toutes les énergies de l'autre qu'on va y arriver.
Docteur Champagne?
Il n'y a rien de plus terrible pour un oncologue de prendre une consultation dans la pile des consultations pour traitement curatif, puis de la mettre dans les traitements palliatifs en disant aux patients, bien, écoutez, le cancer a progressé, il faut revoir les plans. Je pense que pour l'instant, les hôpitaux de soins aigus ont une capacité d'accueil. Il faut repartir le système, parce que sans ça, il y a des gens qui vont payer de leur vie ou de leur santé, donc les délais encourus par cette situation tout à fait tragique.
Merci beaucoup à tous les deux. Dr Arsène Basmadjian, qui est président de l'Association des cardiologues du Québec, et Dr Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec.